Oula, depuis combien de temps ?
Alors, Natura 2000, c'est européen.
Natura 2000, c'est une directive européenne qui se découle en deux directives, en fait. Une première qui s'appelle la directive Oiseaux, qui date de 1979, où ils se sont aperçus à cette époque-là que la biodiversité, en particulier les oiseaux, était en train de disparaître. Et du coup, la réponse à l'Europe, ça a été de mettre en place une directive pour protéger ces oiseaux sur le territoire communautaire. Et Natura 2000, ça a été complété donc en 1992 avec la directive Habitat Faune Flore, où en 92, ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié une petite partie de la biodiversité, à savoir tout le reste que les oiseaux, donc les mammifères, les insectes, les poissons, les reptiles, enfin tout, plus les habitats naturels. Et donc ils ont complété ce dispositif qui est devenu Natura 2000 en 92. Pourquoi Natura 2000 ? Pourquoi 2000 ? C'est parce qu'ils s'étaient dit qu'en 2000, en l'année 2000, donc il y a 25 ans, tout ça serait calé et tout ça serait en place et puis qu'on protégerait la biodiversité de manière efficace en Europe. Autant dire que on n'est pas en avance.
Natura 3000 bientôt.
Ouais, peut-être. Ouais.
Donc toi, on l'a dit, tu travailles pour la Comcom Gange Sumène.
Ouais.
Mais cette zone Natura 2000 s'étend un petit peu hors des limites de la communauté des communes.
Alors moi, ma zone de travail, enfin, elle n'est pas calée sur le territoire de la communauté de communes. Elle est calée sur un site Natura 2000. Moi, mon travail, c'est d'animer un site Natura 2000, c'est-à-dire de mener les actions sur ce site. Ce site, il s'appelle Gorge du Rio Torfache Cagnas. J'en ai souvent parlé à cette antenne il y a quelques années.
Parce que vous reconnaissez peut-être la voix de Béranger, qui était l'animateur de Ornitoquoi, une émission d'ornithologie.
Voilà. Donc cette zone, elle fait 12 000 hectares à peu près. Elle concerne 11 communes qui sont à cheval entre Gare et Hérault, entre communauté de communes de Cévennes Gangeoises et Suménoises et la communauté de communes Piémont-Cévenoles. Parce que ici à Saint-Hippo, on est concerné, à Conquérac, à Pompignan, à Sumène, à Ganges, à Saint-Bosile-de-Putois. Voilà. Et cette zone, elle a été définie en 2006 pour la conservation notamment de deux espèces de rapaces considérés comme très menacés à l'échelle internationale, etc., qui sont présents ici, à savoir un couple d'aigle de Bonelli et un couple de vautours percnoptères, qui est un petit vautour migrateur qui est présent sur ce site Natura 2000 et qu'on cherche donc à protéger de manière efficace. Et ça concerne aussi plein d'autres espèces d'oiseaux et pas mal de rapaces.
Et pour terminer sur cette délimitation géographique, tu peux nous dire un mot de cette réserve naturel régional qui est aussi affilié du coup à cette zone.
Ouais, alors sur ce territoire, on trouve d'autres sites de protection, comme par exemple une partie du parc national des Cévennes aussi, la zone d'adhésion, une partie de la zone d'adhésion du parc national, et aussi une petite réserve qui fait 53 hectares, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle la réserve naturelle régionale de Combe-Chaude, qui est donc à Sumène, dans les gorges du Rio Tor. Une petite réserve qui a été délimitée dans les années 80, je me rappelle plus la date exacte, 86 je crois, au départ un périmètre qui s'appelait réserve naturelle volontaire. C'était une association qui s'appelait l'AVEN qui a créé cette réserve, l'association viganaise pour l'environnement, et qui est une propriété du département du Gard. Voilà. Et en fait, cette année, on a fait un travail qu'on appelait un diagnostic d'ancrage territorial, en même temps sur la zone Natura 2000 Gorge du Rio Torfache Cagnas, et en même temps sur la réserve naturelle de Combe-Chaude, qui est gérée par le conseil départemental du Gard. Donc ce dispositif diagnostic d'ancrage territorial a été mené sur une durée de 6 mois, avec l'aide d'une stagiaire, Pauline Calvier, qui est allée à la rencontre des partenaires, enfin de quelques partenaires avec qui on travaille depuis 2016, aussi bien sur la réserve de Combe-Chaude que sur le site Natura 2000, pour un peu recueillir leur perception de notre travail. Ben, déjà, savoir s'ils nous connaissaient, parce que on a tapé un peu, pas au hasard, mais il y avait des acteurs qui nous connaissaient plus ou moins. Savoir s'ils connaissaient notre action, et comment il apercevait notre action, si c'était s'il la voyait plutôt de manière positive ou négative, et aussi de faire des propositions pour essayer d'améliorer éventuellement ce qu'on fait.
C'est-à-dire que d'habitude, au quotidien, vous allez quand même plutôt observer la faune, la flore de ces zones, et là, vous êtes demandé un petit peu si les humains qui l'habitaient et qui la pratiquaient étaient au courant de ces mesures de protection et comment ils les vivaient.
Ouais, exactement. Alors, parce que du coup, oui,
Et vous faites de la médiation.
On va voir, on passe du temps à aller observer ces oiseaux, enfin, cette biodiversité, mais on ne fait pas que ça. On fait aussi des animations, on fait aussi des mesures de conservation avec les MAE, les mesures agro-environnementales, des contrats Natura 2000, où on fait des chantiers de restauration d'habitat. On travaille, je ne sais pas moi, pour sécuriser les lignes électriques. Enfin, on travaille sur plein de sujets, de thématiques. Et qu'est-ce que j'allais dire?
Cet ancrage territorial, donc c'est l'ancrage de votre travail, Et ben, c'était la première fois qu'il y avait un diagnostic de ce genre fait, si j'ai bien compris.
Exactement, ça permet ben, de... Déjà, c'est pas nous qui l'avons fait. Enfin, on a fait faire par une stagiaire, mais une stagiaire qui n'est pas du territoire, qui ne connaissait rien au départ, enfin, qui ne nous connaissait pas. Et ça a été un choix de notre part pour avoir un regard extérieur et pour ben, prendre un pas de côté et puis regarder un peu...
Il n'y a pas de biais aussi. Ouais,
et éviter les biais, quoi. Parce que sinon, nous, si c'est nous qui le faisons, ben,
tout le monde va dire que c'est super.
Voilà, on connaît déjà les acteurs... Ça met quand même pas mal de...
Une sorte d'enquête, quoi.
C'est ça. Et puis, pour regarder, et puis pour avoir un peu un côté critique de ce qu'on fait, et puis pour peut-être changer de direction, modifier certaines choses, parce qu'on est allé aussi jusque-là pour proposer des améliorations dans ce travail, quoi.
Alors, les grandes lignes de ce projet donc, a été restitué le 8 septembre dernier. Vous avez fait ça à Sumen, c'est ça?
Ouais, on a fait une réunion de restitution avec toutes les personnes qui ont été interviewées étaient invitées. Et puis aussi, tous les partenaires du comité de pilote, enfin, les élus, les chambres d'agriculture, l'ONF, etc., etc. Et donc, les grandes lignes, c'est que on est très satisfait des conclusions parce que... En fait, ce qu'on fait, c'est apprécié. Et les gens en demandent plus. Et ça fait plaisir parce que quand moi j'ai commencé ici en 2016, et j'ai souvenir de personnes que je rencontrais qui voyaient plutôt ça d'un côté négatif, voire très négatif.
Ils avaient peur qu'on les empêche de faire des choses.
Ouais, c'est exactement
ça. C'est souvent ce qui est reproché, toutes les mesures de protection de la nature.
Ouais. Bien sûr. Et l'ambiance, les médias globales, pas par Radio Escapane, mais d'autres médias nationaux, on ne donnera pas de nom, souvent ont quand même une tendance à venir un peu noircir ce truc-là en disant
opposer écologie activité humaine par exemple.
Oui, ça marche. Enfin, c'est chiant. Ça met des contraintes. Chose qu'on peut aussi entendre parmi certains partenaires. Et en fait, la plupart des gens, des structures avec qui on travaille, en fait, ils voient ça d'un très bon œil. Et ils en demandent plus. En fait, ils disent, en fait, vous protégez pas assez la biodiversité. Il faudrait en faire plus. Parce que aussi, on a fait une enquête auprès du grand public. On a interviewé, Pauline a interviewé 34 partenaires de manière, c'était des entretiens très très longs, avec plein de questions. Et aussi, on a fait une enquête grand public qui a recueilli 330 réponses. Là, par contre, c'était tout public, qui voulait répondre à ce truc-là. Et pareil, les gens, en fait, ils en demandent plus, quoi. Enfin, ils disent, faut continuer à protéger la biodiversité, c'est important. Et il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui est sensibilisation, animation, de faire plus de sensibilisation auprès de différents publics, que ça soit dans les écoles, du grand public, etc., etc.
Ça, on peut rappeler que vous faites déjà des choses en milieu scolaire.
Oui, moi je vais assez régulièrement dans les écoles. J'étais ici à Saint-Hippolyte-du-Fort. Cette année, j'ai fait un projet pédagogique avec une école à Saint-Bosile-de-Putois. Je vais dans l'école maternelle à Ganges.
Il y a Sumen aussi,
Sumen, j'y vais. Les enfants, ils me connaissent dans à peu près toutes les écoles du territoire. C'était rigolo parce que c'était ça aussi qui ressortait dans ce diagnostic, c'est que les gens, les partenaires, etc., me connaissent, moi, Béranger.
Par les enfants,
et entre autres, mais aussi des adultes. Mais par contre, ils ne savent pas forcément que derrière, il y a la communauté de communes qui s'occupe de ça, l'organisation Natura 2000, etc. C'était bien pour moi, ça m'a flatté un peu. Ça fait toujours plaisir.
Et sur les pistes, éventuellement, les critiques ou les propositions, on va dire.
Les propositions, il y a aussi cette histoire de réserve de combe chaude. Alors, par contre, sur la réserve de combe chaude, c'était positif globalement, mais des gens étaient en demande de faire plus vivre cet espace où il y a une, je ne sais pas si vous voyez où c'est à l'entrée de Sumen, là, de l'autre côté du rio Thor.
Là où il y a la grotte avec les chauves-souris.
Il y a une grotte en haut dans les falaises avec effectivement une très belle colonie de chauves-souris. Mais il y a cette maison de la réserve là qui est entre le rio Thor et la voie verte, qui est un lieu qui malheureusement est souvent fermé. Et en fait, les deux gens, ils sont demandeurs de faire vivre cet espace. Que ça soit un peu plus accueillant pour le public. Et là-dessus, du coup, on a un petit peu des marges de progression à avoir. J'en parle à la région là, qui nous finance. Si on pouvait avoir un poste d'animateur nature.
Parce que c'est pas votre responsabilité directe, cette maison-là.
Alors, la maison de la réserve, elle dépend du conseil départemental. Okay. Mais du coup, il y a un conservateur qui est basé à Nîmes et où il y a, enfin, lui, il est aussi, il aimerait bien venir plus souvent, mais en fait, il a, enfin voilà, il y a des financements et tout ça qui sont limités. Donc, idéalement, ça serait si on pourrait avoir une personne qui ferait de l'animation nature, de la sensibilisation, qui soit sur ce site ou d'autres, qui aille dans les écoles, etc. Enfin, après, il y a plein de choses à faire, mais essayer de multiplier les moyens humains pour essayer de faire plus et répondre à cette demande. Mais bon, après, on est lucide. Dans le contexte actuel, on a un peu d'espoir.
Puisque tu parles du contexte actuel, là, ce diagnostic donc, que vous avez mené là, sur toute la période, finalement, qui n'avait jamais été faite jusque-là, c'est aussi une manière d'envoyer des signaux, justement, peut-être aux instances au-dessus, dans une période où on a tendance à couper un peu les budgets, à se dire que l'écologie, ça passe après, je ne sais pas, la guerre et l'économie.
Oui, oui, oui.
C'est aussi une manière de dire, non, mais en fait, regardez ce qu'on fait, c'est bien sur le territoire. Vous avez espoir, justement, que ça soit, hormis l'ancrage local, qui fait du bien aussi, mais de peut-être de peser un petit peu sur les futures décisions.
Moi, je suis le premier à être persuadé que défendre le vivant, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel et tout ce qu'on veut avant de faire plein d'autres choses comme la guerre, par exemple. Et on va le payer très cher dans pas longtemps de pas s'être assez préoccupé de ces questions-là. Nous, humains, mais bon, enfin voilà, après, enfin, bref, c'est un vaste débat. Et ce diagnostic d'ancrage territorial local, il vient alimenter ça en disant, voilà, ce qu'on fait, ça sert à quelque chose et c'est utile et ça marche. Mais il y a d'autres signaux qui disent ça. Il y avait une étude il y a quelques années menée à l'échelle européenne qui disait que Natura 2000, ça marche pour protéger la biodiversité parce qu'il y a un réseau de sites protégés à une grande échelle qui est l'Europe. Et on peut faire des choses quand on se donne les moyens. Mais après, il y a aussi des trucs qui ne marchent pas et qu'on sait, comme par exemple l'agro-industrie. On sait que c'est une catastrophe pour le vivant, pour la biodiversité. Et ça, par contre, on voit que ça va pas dans le bon sens, quoi. Et y a aussi des petites résistances qui se mettent en place, mais va falloir faire beaucoup plus et avancer sur ces sujets-là si on veut un jour vraiment protéger la biodiversité.
Alors, je suis allé faire un petit tour sur les pages qui sont animées, donc soit sur le site de la Comcom notamment, où sont répertoriés un petit peu des articles qui relaient vos actions, ou sur des pages Facebook aussi.
Ouais, on a une page Facebook propre au site Natura 2000 Gorge du Rio Torfage Cagnas qui s'appelle Nature à 12 000. C'est un petit clin d'œil par rapport aux 12 000 hectares du site. Et c'est moi qui relaye quelques infos sur ce site.
Oui, on peut voir d'ailleurs qu'effectivement, notamment les oiseaux, les espèces comme ça qui se reproduisent, dès qu'on arrête éventuellement de couper les endroits où ils nidifient ou de les chasser, en fait, ils reviennent assez vite. Donc, il y a aussi on peut voir en plus concrètement sur une décennie ou même des fois sur quelques années. Tout d'un coup, dès qu'on arrête la chasse ou dès qu'on protège des nids, tout d'un coup, les oiseaux reviennent.
Quand on met en place des mesures de... Enfin, je prends l'exemple de l'aigle de Bonelli que je connais bien. Moi, je travaille sur cette espèce depuis 2005. Et en fait, ce qui avait été mis en avant sur l'aigle de Bonelli, c'est que la première cause de mortalité de cette population française, c'était l'électrocution sur les lignes électriques. Il y a eu un gros programme de fait avec EDF, ERDF, maintenant ça s'appelle Enedis, pour protéger les lignes électriques, là où les oiseaux ils s'électrocutaient le plus. Ça marche, en fait. Quand on se donne les moyens de faire des choses, ça fonctionne. Et du coup, on a eu des taux de survie qui ont augmenté pour la population d'aigles de Bonelli en France. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une population d'aigles qui est en beaucoup meilleure forme. On était descendu à 23 couples en 92. Aujourd'hui, on est à 51 couples en France. Et il y a une courbe qui est plutôt très positive, qui est positive depuis quelques temps, parce qu'on a mis en place des actions. On pourrait citer l'exemple de la cigogne, par exemple. La cigogne, c'est une espèce au niveau national où il y a des gros programmes de protection de cet oiseau et de son habitat. Et pareil, ça a marché. Si aujourd'hui on se donnait les mêmes moyens pour, le bruant ortolan, c'est une espèce d'oiseau qui niche dans les cultures et qui est en train de disparaître, qui disparaît.
Ouais, les espèces qui nidifient dans les champs, c'est compliqué.
Ah, c'est la catastrophe. Le bruant ortolan, cette année, je n'en ai pas entendu ici.
Et alors, puisque tu parlais de l'aigle de Bonelli, j'ai lu aussi justement qu'il y avait eu malheureusement une mort là, il y a peu de temps.
Oui, parce qu'on sécurise les poteaux, mais il en reste encore un paquet à faire. Je parlais des
preuves par A plus B là. Ouais.
Alors là, on a un cas où l'oiseau, il a eu triple peine. Trois phénomènes qui se sont conjugués. Donc c'est une femelle d'aigle de Bonelli qui était nicheuse, c'est-à-dire qu'elle était cantonnée sur un site de reproduction, sur une falaise, en couple avec un mâle. Et en pleine période de reproduction, c'était au mois de février dernier, elle s'est faite chasser de son site de reproduction. Donc on peut penser que c'est un phénomène qui est complètement naturel. Donc, enfin, ça veut dire qu'il y a une autre femelle qui est venue sur le site et qui lui a pris sa place, qui l'a éjectée. Donc on pourrait penser que c'est un phénomène naturel, mais en fait pas tout à fait quand on regarde d'un peu plus près, parce qu'en fait cette femelle qui est venue prendre sa place, en fait naturellement, elle aurait dû ou pu en tout cas aller s'installer sur un site libre, sur une falaise, parce que des falaises il en existe pas mal sur le territoire de domaine vital des Bonelli. Et en fait le problème c'est que ces falaises libres il n'y en a plus beaucoup parce que souvent il y a des voies d'escalade, il y a une via ferrata, il y a un lotissement qui s'est construit au pied, il y a je sais pas quoi, il y a je sais pas quoi, et du coup ces oiseaux qui cherchent des espaces où s'installer, ils font plutôt le choix de venir prendre la place sur des sites qui sont occupés, parce que les falaises par contre elles sont de qualité, souvent les meilleures places ont été prises en premier. Et du coup, en fait, c'est pas vraiment un phénomène naturel, quoi. Enfin, si on creuse un petit peu.
Ensuite, cette femelle, elle a plus de nid.
Donc, cette femelle, elle s'est faite virer de son site au mois de février, alors qu'elle devait pondre incessamment sous peu. Donc, elle s'est faite virer parce que le vendredi, on voyait 3 oiseaux sur le site. Le samedi, il y avait encore 3 oiseaux. Le dimanche, il n'y en avait plus que 2, la nouvelle femelle et le mâle. Et on ne voyait plus la femelle. Et le lundi, une personne de Pompignan, pas très loin d'ici, là, nous contactait, comme quoi elle avait trouvé un aigle de Bonelli mort au pied d'un poteau électrique juste à côté de chez elle. Donc il s'avérait que c'était la femelle du site historique, enfin la femelle historique qui était baguée. C'est comme ça qu'on a pu l'identifier. Donc on a pu rapidement récupérer le cadavre et pour que l'oiseau parte faire une autopsie. Donc l'autopsie a révélé qu'il s'était bien électrocuté, cet oiseau, donc il s'est posé sur un pylône, et puis il a dû toucher deux câbles, et donc il a fait court-circuit, il s'électrocute. C'est des phénomènes assez fréquents malheureusement sur les grands oiseaux comme ça, et on a des dispositifs pour essayer, pour plus que ça arrive. Donc l'oiseau s'est fait virer, spolier et électrocuter. Et je disais, l'oiseau, donc, il est parti en autopsie, il est parti à Lyon, au CNITV, un laboratoire qui travaille notamment sur tout ce qui est intoxication et poison chez les oiseaux, notamment chez les vautours, mais pas que. Et donc, ils ont fait des analyses toxico de ce cadavre, et ils se sont aperçus qu'en fait, cet aigle était clafi de raticide, qu'il avait des doses quasi mortelles de raticide, donc il a dû consommer des proies qui étaient empoisonnées. Et il n'en est pas mort, mais ça a dû sérieusement l'affaiblir, qui expliquerait aussi en partie le fait
qu'il n'est pas combattu,
voilà, qu'il s'est fait virer assez facilement. Si elle avait été certainement plus en forme, elle serait peut-être pas fait virer de son site, elle aurait eu le dessus. Et peut-être aussi, on peut imaginer qu'au moment où elle s'est posée sur le poteau, elle était peut-être un peu flagrante et qu'elle a peut-être eu un comportement qui était inhabituel, quoi.
Voilà. Les enquêtes des ornithologues de notre région, mais qui observent aussi des événements heureux, hein, parce qu'il y a des naissances, des vautours, fait partie du boulot aussi de comprendre, et de pouvoir peut-être espérer, par exemple, que ces poteaux électriques soient équipés.
On a déjà travaillé avec une Enedis pour sécuriser le poteau mortel, plus les quelques armements, on appelle ça des armements, qui sont à proximité. Et puis là, on doit faire cet automne, parmi les choses que je vais devoir faire, une étude complète de tout le réseau électrique sur le territoire de l'aigle, parce qu'on le connaît, le territoire, et du coup on va regarder poteau par poteau lesquels sont dangereux, et fournir cette étude après à Enedis, qui va s'engager à protéger tous les poteaux dangereux sur ce territoire pour plus que ça arrive, quoi. Voilà. Et aussi travailler sur cette histoire de raticide. Alors ça, on ne sait pas trop par quel bout on va le prendre, mais pour éviter, parce que là, cet aigle, il s'est fait empoisonner, on l'a su, mais il y a certainement d'autres animaux qui doivent, à qui ça doit arriver.
Et si les gens qui nous écoutent ont envie aussi, peut-être, des fois, vous avez besoin de bénévoles pour des actions d'envergure, ou pas trop, ou ils se tournent vers leur petite association.
Si, non, qui n'hésitent pas à venir vers moi, vous trouverez mes contacts sur les réseaux ou sur la communauté de communes de Ganges. On fait des journées d'observation, etc. Enfin, on a une espèce de... Enfin, je suis loin de travailler tout seul, en fait. Je travaille avec pas mal d'ornitho bénévoles, souvent des retraités, qui font ça par passion et avec qui on échange régulièrement sur des suivis, des infos, etc., etc. Et j'en profite pour faire une petite annonce. On fait une journée d'observation de la migration la semaine prochaine, mercredi prochain, le 24, à Saint-Romand-de-Caudière. On sera toute la journée sur le col à Saint-Romand, là, pour observer les oiseaux migrateurs. On y sera de 9h à 17h, mais n'hésitez pas à venir nous voir et puis justement partager quelques observations, et puis voilà, bonne journée.